C'est un pays qui n'existait pas sur la carte de la pop mondiale, parce qu'il y avait l'Angleterre pour ça. Pourquoi et comment la Suède s'est-elle imposée comme usine à tubes? Parce que ABBA. Aujourd'hui, Pop & Co et Pop & ABBA, un peu moins de 10 ans d'existence pour le groupe et une postérité incroyable dans les hit parades, pour parler comme à l'époque. L'époque des années 70, depuis leur victoire à l'Eurovision en 1974, jusqu'à la publication de leur dernier album en 1981. Un producteur comme Brian Eno, dont les états de service comptent entre autres David Bowie et Talking Heads, donc a priori à des années-lumière d'ABBA, Brian Eno, disais-je, a déclaré « Dans les années 70, personne n'aurait admis aimer ABBA. J'aime ABBA. Je les aimais avant, mais le snobisme de l'époque ne le permettait pas. » Pour ma part, j'ajoute qu'ABBA, c'était les antistars. Des tubes, certes, mais une absence totale d'arrogance. Jusqu'à midi, nous allons donc céder à un plaisir non coupable. Des mélodies entêtantes, des chansons remarquablement bien foutues, fabriquées avec soin, comme du bel artisanat. Mais que savons-nous faire de nos mains? C'est la question que pose le groupe Feu Chatterton dans l'une de leurs nouvelles chansons. Ce matin, on soulève le capot du morceau « Nouveau monde ». Alors que savons-nous faire de nos mains? Je ne sais pas. Mais pour vos oreilles, voici Pop & Co, si vous voulez bien.
France Inter, Rebecca Manzoni. Pop & Co.
Bienvenue à la Maison de la Radio, dans le Grand Hall, au bord de la Seine.
Bonjour.
Enchanté.
Ben, moi de même. Entrez.
Voici Jean-Marie Potier, il est l'auteur de « Il était une fois, ABBA ».
Ça vous va si on fait ça dans mon bureau?
Bien sûr, il n'y a pas de problème, oui.
Je vous préviens que c'est pas rangé du tout.
Mais c'est un bureau, c'est
voilà.
Un lieu de travail.
On va dire ça, mais il y a une machine à café.
Alors, c'est parti. On dirait qu'on serait le 6 avril 1974. Ce soir-là, 6 avril 1974, dans les télés d'Europe, il y a Cathy Boyle, de la BBC, qui nous parle depuis Brighton.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue à ce 19e concours de la chanson Eurovision qui a lieu au Dôme de Brighton. 500 millions de téléspectateurs regardent leur petit écran à ce moment même. C'est vraiment une chose fantastique.
Et parmi ces 500 millions de téléspectateurs, il y a Jean-Marie Potier.
6 avril 1974, j'ai 13 ans, je suis en Belgique, devant mon téléviseur. C'est la première fois que je regarde le concours Eurovision de la chanson. Et je suis sur le point de m'endormir. Il y a 7 candidats qui viennent de passer, tous plus soporifiques. ABBA arrive comme une tornade. Dès l'intro, je suis scotché sur ma chaise.
Et par chez nous, c'est Pierre Tchernia qui présente les vainqueurs de l'Eurovision 74.
4 jeunes gens qui forment le groupe ABBA. A2BA, c'est-à-dire leurs initiales, Agnetha, Björn, Benny, Anifrit. La chanson s'appelle Waterloo et le thème c'est « Oui à Waterloo, Napoléon a dû se rendre. Moi, depuis que je t'ai rencontré, je le sens bien, l'histoire se répète. Waterloo, je suis vaincu et maintenant je me rends. »
Moi qui suis passionné par le glam rock, je retrouve dans leur look et dans leurs chansons l'esprit du glam rock.
C'est quoi cet esprit glam rock?
Alors c'est dans le son. Guitare électrique mise très en avant, ce rythme très rapide. Waterloo, c'est un glam rock mélodique. C'est du glam rock pop. Et le glam rock, c'est un peu le style de musique qui fait la transition entre les années 60 et les années 70.
Waterloo,
parlait du côté glam rock de la chanson, et en même temps, moi je trouve que dans le refrain, on dirait un peu du folklore.
Ah, ben vous touchez un point intéressant.
Waterloo.
Ben justement, chez ABBA, la musique folk est très très importante. Ça, ce sont les racines des musiciens, de Björn, mais surtout de Benny, le barbu, le pianiste, qui a grandi dans une famille où on jouait de la musique folklorique. À 6 ans, on lui met un accordéon dans les mains. Et la musique folklorique, de toute façon, est très très imprégnée, elle est dans l'ADN des Suédois.
En effet, avant même que Benny Andersson ne cofonde le groupe ABBA, il composa ceci, Födelsedagsvags, Till Mona.
Et puis, ils ont des influences, puisque Benny a grandi avec les Beatles, avec Elvis Presley, mais aussi avec la chanson française, avec la chanson italienne, le schlager allemand. On retrouve tout ça chez ABBA, dans le son ABBA.
C'est quoi le schlager allemand ? Parce que ça, c'est une influence vraiment très importante chez eux.
Oui, le schlager allemand, ben, c'est une sorte de variété des pays allemands, pays de l'Est aussi, en tout cas l'Europe du Nord, qui est très très marquée par le rythme. On peut rapprocher le schlager allemand de ces chansons de foire, de fêtes foraines, de fanfare, avec ce rythme « pou-pa-pa, pou-pa-pa, pou-pa-pa ».
Voici un exemple de schlager allemand, Adam und die Mickeys avec Der Schorsch, Der Krotzeborsch.
Et Super Trooper, moi ça m'a toujours étonné que ce tube soit aussi mondial alors que c'est une chanson avec un rythme typiquement schlager. Hein.
Super Trooper, beams are gonna blind me.
Super Trooper, Super Trooper. Super Trooper, Super Trooper. On est dedans, là, dans le schlager pur.
Pour ceux qui ont raté le début, ce matin, Pop & Co est Pop & ABBA. Et c'est le moment de faire un point sur quelques-unes de leurs inspirations musicales. 1. Le folklore suédois. 2. Le schlager allemand. 3. La pop anglo-saxonne. À toutes ces inspirations, ajoutons la musique de cabaret.
Le cabaret fait partie aussi des influences de Benny, surtout, parce qu'il est pianiste, alors le piano bastringue, c'est son truc. On retrouve ce son de cabaret dans la chanson Money, Money, Money.
Et nous voici en studio avec ABBA pour une étape de travail détendue sur le morceau Money, Money, Money.
Sit there.
Le cabaret est très présent aussi dans d'autres chansons. La fin de Chiquitita, quelque part. C'est une fin instrumentale. Elle a un côté cabaret fanfare. Et un peu schlager. Le piano très martelé. Ah oui, ça c'est aussi une signature d'Abba. Quand on entend ça, ça a été très copié d'ailleurs par beaucoup d'artistes par la suite.
Dans la vidéo qui accompagne cette chanson, Agnetha, Frida, Björn et Benny sont à la montagne, curieusement. Et un bonhomme de neige géant se tient derrière eux avec un ruban vert pomme autour du cou. Vert pomme aussi, la doudoune de Björn, qui tient la guitare. Je me souviens d'autres images où Frida portait une combi en latex à motif python et Agnetha des abat-jours aux genoux qui surplombaient des bottes en lamé. Bon bref, concernant le look d'Abba, il y a quand même un sujet.
Juste après le concours Eurovision, ils ont commencé à travailler avec un styliste suédois qui s'appelle Uwe Sandström. Et Uwe, ses influences, sa passion, c'est le cabaret, ce sont les revues. Il venait souvent à Paris voir les grandes revues du Casino de Paris, des Folies Bergères. Voilà, il aime les plumes, il aime les paillettes, il aime les strass. Ils ont compris aussi à bas que la télévision était un outil idéal pour la promotion de leurs chansons.
C'est vrai qu'on les voyait beaucoup à la télé à bas, souvent chez Drucker d'ailleurs.
Nous allons maintenant, Gina, accueillir un groupe dont la carrière est extraordinaire. D'abord parce qu'il est très rare qu'un groupe ayant gagné l'Eurovision fasse cette carrière. Depuis les Beatles, jamais un groupe de chanteurs et de musiciens n'a été adopté de cette façon par la jeunesse du monde entier. Notre ami et confrère Pascal Sevran, qui les connaît bien, qui les aime et qui collabore à cette émission, a écrit sur eux qu'ils étaient suédois, le pays des allumettes, et c'est pas seulement pour cette raison qu'ils brûlent les planches. Et il a ajouté, et c'est vrai, qu'ils ont un nom magique qui claque comme un alphabet d'enfant et qui est compris dans toutes les langues. Ah bah !
Non, c'est Potier, Jean-Marie. Auteur de « Il était une fois » à bas.
Donc, ils vont se présenter à la télévision avec des costumes qu'on remarque, flamboyants, parce qu'à bas, c'est vrai que c'est un son, mais c'est aussi une image. C'est une image maintenant qui est très datée. Aujourd'hui, on se souvient parfois, hélas, trop de leurs costumes, plus que de leur musique. Heureusement, après, vers la fin des années 70, ils ont un peu changé. Bon, ils sont entrés dans une période où, moi, j'appelle aussi le look un peu dynastie.
Pour remettre dans l'ambiance, le générique de la série Dynastie, puisque selon Jean-Marie Potier, Abba adopta les codes vestimentaires de la famille Carrington.
Tailleurs, talons aiguilles pour les filles, mais les filles sont maquillées comme des voitures volées. On est dans une sorte de flamboyant, mais début 80, qui est pas forcément toujours, c'est pas très sobre, c'est pas très heureux. Mais bon, voilà, c'est comme ça.
Et maintenant, c'est Stromae qui vous annonce le prochain invité de Pop & Co.
Mesdames et messieurs, il nous vient de Bruxelles. Un maximum de bruit, un maximum de bruit pour Simon, Simon le Saint. Simon, Simon le Saint.
Simon le Saint a été batteur.
Simon, Simon le Saint.
Pour Stromae, pour Sébastien Tellier, Simon le Saint est aussi DJ et producteur.
Simon le Saint, Simon le Saint.
Moi j'ai grandi avec l'idée qu'Abba c'était le kitsch absolu et que c'était un groupe de merde et que c'était de la musique de merde et que c'était nul. C'était ce qu'il y avait de plus kitsch, de plus laid, de plus nul, de plus commercial, de plus ringard. Et je pense que c'est lié principalement à leur esthétique, à leur look, pas vraiment à la musique, parce que la musique, faut vraiment être sourd pour penser que c'est pas bien.
Pourquoi vous dites ça?
Parce que c'est extrêmement bien écrit, extrêmement bien produit, extrêmement bien mixé. tout le monde chante juste, tout le monde chante bien, et puis surtout c'est extrêmement bien arrangé. Vraiment, c'est pour moi c'est ça la force d'Abba, c'est la composition, enfin les compositions et les arrangements. Surtout les chœurs, chez Abba c'est beaucoup de chœurs qui sont vraiment bien. Les arrangements vocaux, tout ça c'est très Beach Boys, avec des choses qui se lient. Je peux pas vous les faire parce qu'il faudrait que j'ai plusieurs bouches. Mais écoutez, vraiment c'est tout se rejoint, enfin c'est extrêmement bien arrangé vocalement. You are the dancing queen, feel the beat from the tambourine, oh yeah, you can dance, you can jive, having the time of your life, ooh, see that girl, watch that scene.
Il y a aussi le fait que c'est une bande-son qui est quand même très chargée, mais
oui.
Tous les instruments sont très nets.
Oui, tout à fait. C'est à la limite, parfois, même par exemple Dancing Queen, pour moi, personnellement, on frôle le too much. Il se passe tout le temps quelque chose. Moi, mon oreille est limite un peu fatiguée à la fin de la chanson. Mais bon, la chanson est tellement bien écrite et j'aime beaucoup la rythmique dans ce morceau-là. Mais c'est vrai que les violons sont à fond, les voix sont à fond, tout est à fond. Et Dancing Queen, c'est un peu, on est à la frontière de ce que l'oreille humaine peut accepter, plus que dans du métal ou dans des musiques plus agressives. Souvent, les gens dans les labels et tout ça, vous donne toujours, quand vous êtes producteur, la directive de garder les choses très simples et de simplifier, de rester très pur. Et Abba, c'est un peu le contre-exemple de ça. C'est comme Michael Jackson aussi, c'est extrêmement bien produit. C'est le travail de Quincy Jones et le travail des producteurs d'Abba. Est très comparable, je trouve. Dans la complexité, mais dans l'intelligence avec laquelle c'est fait, la complexité fonctionne. C'est comme Stravinsky. If you change your mind, take a chance, I'm the first in line, take a chance, honey, I'm still free, take a chance, take a chance on me, if you need me, let me know, gonna be a chance, around, if you got no place to go, when you're feeling down, if you're all alone.
À la fin des années 60, un garçon du nom de Phil Spector inventa le mur du son, une pop symphonique qui bastonne, quasi wagnérienne pour faire court. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a du Phil Spector dans ABBA et Jean-Marie Potier is back.
L'influence du son de Phil Spector dans la musique d'ABBA, ça va venir de leur ingénieur du son. Il s'appelle Michael Beitreto. C'est un fan de Phil Spector. C'est un fan des Ronettes, des Crystals, de Tina Turner, tout ça. Mais il a peu de moyens. Ils ont pas les moyens de Phil Spector. Parce que Phil Spector, il convoque 3 batteurs, 4 guitaristes, et puis il double, il triple. Bon. Ben, Michael Beitreto, il a un guitariste, il a un pianiste.
Tout à l'unité, quoi.
Voilà, il va les doubler, les tripler, les quadrupler pour donner une amplitude comme ça, une épaisseur à chaque instrument. Et il a trouvé un truc aussi, il va enregistrer une fois le musicien ou la chanteuse, parce qu'il a fait ça aussi avec les voix, et il va les enregistrer une deuxième fois, mais il va légèrement ralentir la bande de la deuxième voix ou du deuxième instrument.
Et ça donne...
Ça donne un son énorme, voilà le fameux mur de son qui est là, qui est très présent et qui donne un gros son, comme on dit. Les musiciens disent ça, c'est un gros son.
Simon, dites un truc.
Oui.
Simon Le Saint, DJ, producteur, batteur.
Il mélange beaucoup l'instrument réel et le synthétiseur. Il y en a dans quasiment tous les morceaux. C'est une vraie batterie. La boîte à rythme est arrivée chez ABAC très tard. C'est souvent une vraie basse, mais doublée avec un synthétiseur. Il y a des vrais violons, mais il y a ce qu'on appelle du Solina, c'est un synthétiseur qui fait des violons aussi. En fait, ça sonne très disco, très club, comme de la musique électronique, mais en fait, tout est joué. Ça fait partie de l'esthétique un peu cool, ce qui est devenu cool par après. Je suis pas sûr que s'il y avait pas tous ces synthés, même s'ils sont relativement discrets, je suis pas sûr qu'Abba serait un groupe que les DJ d'aujourd'hui jouent dans leur set s'il y avait pas cet élément-là.
S'il n'y avait pas cet élément électro ?
Oui, ouais. Après, je pense qu'ils s'en foutent, hein. Ils sont multimilliardaires, être cool, pas cool, c'est pas vraiment leur souci, je pense.
Un jour, j'étais avec le chanteur Arnaud. Je l'ai interviewé pour une émission qui s'appelait Éclectique, et je lui ai fait écouter cette musique.
Abba. 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 Oh, mon. Carefree laughter, silence ever after.
Walking through an empty house,
tears in my eyes.
Here is where the story is.
This is goodbye. Knowing me, knowing you. Oh. Formidable, eh? Formidable, dit. Oh, j'adore ça. Et dans le temps, j'aime pas Abba. Dans le temps, non. Mais maintenant, j'ai tous les disques d'Abba. Je trouve ça génial. Ça, c'est de pop musique. Ça, c'est le vrai pop musique. Oh. Et des mélodies. Ça, c'est happy. Mais c'est triste. Knowing Me, Knowing You, c'est une chanson très triste. Hein? Mais la musique, ça donne une banane, quoi. C'est hop.
Et hop, je m'interroge. Arnaud est belge. Jean-Marie Potier, qui est l'un de nos guides pour cette émission, est belge. Et Simon Le Saint est belge. Alors, j'ai demandé à Simon.
Il y a un truc entre Abba et la Belgique, quand même.
Ben, sans déconner, nous, on est un pays moitié francophone, moitié flamand. Et l'esthétique flamande est très proche de l'esthétique allemande. Et l'esthétique allemande est assez proche de l'esthétique Abba. Et donc, je pense que nous, en Belgique, on est peut-être plus tolérants à certains excès de mauvais goût, enfin, qui peuvent être appelés du mauvais goût en France, qui pour nous sont juste normaux. De toute façon, qu'est-ce que le bon goût, qu'est-ce que le mauvais goût ? C'est un peu, ça dépend d'un pays à l'autre, ça dépend d'une personne à l'autre. Vive le mauvais goût !
Knowing Me, Knowing You d'Abba par Arnaud et vive la Belgique.
No more carefree laughter, silence ever. Walking through an empty house, tears in my eye. Here is where the story ends. This is goodbye. Knowing me, knowing you.
France Inter.
I'm Benny.
I'm Agnetta.
I'm Frida.
Rebecca Manzoni.
And I'm Bjorn.
Pop & Co.
We're ABBA. ABBA.
Ah, voilà Coy. Non, non, mais entre, entre. On fait une interview avec Jean-Marie pour l'émission ABBA.
Bonjour. Ah, d'accord, bonjour. Enchanté.
Coy Nguyen, réalisateur de cette émission, fait donc son entrée dans le studio de Pop & Co et on continue la conversation avec Jean-Marie Potier, auteur de Il était une fois ABBA.
Ils avaient cette image qui venait un peu d'ailleurs. Il y avait la blonde, Agnetha, archétype de la beauté suédoise. Ils avaient ce côté toujours très souriant où, quand même, dans le monde du rock, on faisait beaucoup la gueule. Ça les démarquait du reste, des autres artistes.
ABBA détonnait aussi parce qu'ils ont toujours été à rebours de la mythologie du triptyque sexe, drugs and rock'n'roll. Pendant longtemps, avant leur divorce en tout cas, ABBA fut l'incarnation de l'amour conjugal, rangé des voitures.
L'image d'ABBA de ces deux couples est naturelle. Tout ça n'est pas fabriqué. Dans le monde du rock, ça va pas, ça plaît pas. Ils sont très critiqués, ils sont rejetés par les rockers, par les critiques aussi, qui trouvent cette image un petit peu trop lisse, un petit peu trop gentille, un petit peu trop gnangnan. Pourquoi deux couples qui ne se droguent pas, pourquoi n'auraient-ils pas le droit de faire des chansons formidables ? Mais j'avais pris des notes, excusez-moi, je peux...
Bien sûr, bien sûr.
Par rapport à ça,
Je vous laisse les consulter.
Une mission suédoise.
Pendant que Jean-Marie Potier consulte ses notes, il est 20h sur Antenne 2, le 3 janvier 1976. Et l'on s'intéresse à l'égalité homme-femme en Suède.
On dit souvent que plus la température est basse dans un pays, plus les rapports humains y sont chaleureux. Eh bien, c'est faux. Allez donc à Stockholm, vous en reviendrez déçus. La grande suédoise blonde ne cherche plus l'aventure comme dans les magazines. Aujourd'hui, elle milite pour l'égalité des sexes, à la maison comme à l'usine. En réalité, plus qu'à une réactualisation du rôle féminin, on assiste à une remise en cause du rôle de l'homme. Pourquoi l'homme serait-il différent de la femme ? C'est l'histoire et la société patriarcale qui lui ont donné cet avantage. Les Suédois ne sont plus d'accord. L'homme peut pleurer s'il est triste, exercer la profession de jardinière d'enfants sans honte. En vertu de quoi, il peut partager avec sa femme un congé de maternité de 7 mois, par exemple. L'égalité des sexes en Suède a un peu tendance à se confondre avec une reprise en main de la société par les femmes. L'expérience a le mérite d'exister, mais les bénéficiaires ne seront probablement pas les Suédois.
Ça, c'est pour la Suède. Mais pour le rock'n'roll, c'est pas pareil.
Il y a deux filles à l'avant du groupe. Et quand on sait qu'à l'époque, le monde du rock était quand même dominé par les hommes, on comprend que ça ne passe pas. Le milieu du rock était très macho. Donc ABBA plaît au grand public, mais sa musique n'est pas prise au sérieux par ceux qui font de la vraie et bonne musique. Je mets des guillemets à vraie et bonne. Après l'étiquette Eurovision, on va leur coller l'étiquette de groupe pour midinette, parce que justement, il y a Agnetha et Frida, deux mannequins, je vais dire, parce qu'elles étaient sublimes, et elles chantaient merveilleusement bien, mais voilà, c'était pas rock'n'roll.
C'est-à-dire que ça, à la fois leur côté couple rangé des voitures, avec en plus deux chanteuses mises en avant, ça leur retirait toute crédibilité, d'une certaine façon.
Les deux filles, Agnetha et Frida, retiraient une certaine crédibilité à la pop qu'ils faisaient parce que Agnetha et Frida sont trop belles, trop lisses, chantent trop bien pour être vraiment de vraies chanteuses de rock. C'est pas possible.
Je te l'ai dit 1000 fois et je te le redirai, on n'écoute pas ces enfoirés d'ABBA.
Si, on les écoute. Dans Priscilla folle du désert, film australien de 1994, on ne fait même que ça.
Excusez-moi, mais quel genre de numéro vous faites ?
Eh bien, on est maquillés, habillés comme des femmes et on chante en playback en dansant sur une musique disco.
Dans Priscilla folle du désert, comme dans Muriel, autre film australien de cette même année 94, les chansons d'ABBA sont des personnages à part entière.
Mmh.
Question. Comment deux couples suédois hétérosexuels, qui ne prenaient aucune position politique et chantaient essentiellement des histoires d'amour, sont-ils devenus des icônes gays?
Les gays se sont appropriés Dancing Queen, par exemple. Ils se sont appropriés Gimme, Gimme, Gimme. Parce que, bon, non, les textes peuvent être peuvent avoir une deuxième lecture.
C'est-à-dire, si on prend Dancing Queen, par exemple.
Mais Dancing Queen, Queen est un mot dans la communauté gay qui a une connotation un peu flamboyante, camp. Queen of the Night, hein, Reine de la Nuit, machin, c'est les travestis, voilà. Gimme, Gimme, Gimme est une chanson qui marchait énormément en boîte, qui parlait aux gays parce que, ben, donne-moi un mec après minuit, quoi. C'est une femme qui chante, là, qui c'était d'ailleurs un peu osé comme texte. Et donc, c'est une chanson idéale pour draguer. D'ailleurs, sur les pistes de danse, les chansons disco d'ABBA facilitaient beaucoup la drague entre mecs sur les pistes de danse. Björn a souvent pris la parole, a dit mais j'ai plein de gratitude comme ça pour les gays et la communauté d'ailleurs gay dans les années 80 nous a soutenus quand nous étions has-been. Quand personne ne voulait plus entendre nos chansons ou parler de nous, eh bien les gays nous ont soutenus.
Quand ABBA déboule, en 1974, la Suède n'existe pas sur la carte mondiale de la pop. À ce jour, ABBA a vendu 400 millions d'albums.
Et jusqu'au milieu des années 70, aucun artiste scandinave n'arrivait à percer à l'étranger. Il a vraiment fallu attendre la victoire d'ABBA à l'Eurovision pour que les professionnels commencent à s'intéresser et écouter ce qui se faisait dans les pays du Nord. Donc avant de gagner le concours, Björn et Benny, par exemple, avaient envoyé des cassettes en Angleterre, dans les maisons de disques. Elles partaient à la poubelle. Björn le dit très souvent, ça. Donc oui, ABBA a vraiment ouvert la porte à d'autres artistes suédois. Et je dirais même qu'ils ont ouvert les oreilles des professionnels de la musique à l'étranger. Mais je trouve qu'il va falloir quand même attendre le début des années 80 et puis les années 90 pour que les Suédois s'imposent. On va avoir Roxette dans les années 90, Ace of Base, des Cardigans, et puis des producteurs. Max Martin, il y a eu Dennis Pop aussi, qui ont travaillé avec Céline Dion, avec un tas d'artistes.
Je ne crois pas que Madonna ait travaillé avec des producteurs suédois. En revanche, en 2005, elle utilise le motif principal de la chanson d'ABBA Gimme 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 pour l'un de ses titres. Et les producteurs suédois suscités, je veux parler de Dennis Pop et surtout Max Martin, sont devenus des machines à tubes pour Britney Spears, Katy Perry, The Weeknd. Max Martin, le gars qui a vendu plus de disques que les Beatles et Elvis Presley réunis.
I don't know what to do.
Pour ce récit dédié à ABBA, nous avons consulté deux livres de Jean-Marie Potier, ABBA, les coulisses du succès, et Il était une fois ABBA, qui a paru chez Hugo Images. Et cette émission salue décidément la Belgique aussi, puisque je tiens à remercier Olivier Monsens, dont le documentaire Disco Europe Express fut une source précieuse.
France Inter, Pop & Co, Rebecca Manzoni.
Faut faire le zéro ou pas, pour sortir? Ok, donc 06...
Là, c'est le moment de l'émission où je donne le numéro d'un chanteur à la France entière, donc il s'appelle Arthur Teboul, T-E-B-O-U-L, c'est la voix et l'auteur du groupe Feu Chatterton. On va entrer dans les coulisses d'une de leurs chansons dans une poignée de minutes. Donc, Teboul Arthur, 06 87...
Allô?
Allô Arthur?
Salut Rebecca. On répète Dépêche Mode.
Sans blague.
La reprise de Personal Jesus, ouais.
Alors, quel est le morceau choisi par Feu Chatterton parmi tous les titres diffusés en ce moment sur France Inter?
C'est Sunny de Fontaine D.C.
Et pourquoi?
C'est une sensibilité qui nous touche parce que c'est un groupe avec plusieurs guitares. C'est vraiment un groupe de rock qui est super beau dans Sunny. C'est qu'il y a à la fois l'aspect nerveux et tendu du rock, vraiment des sons de guitare bien affûtés, mais c'est une balade aussi, un peu mid-tempo avec des mélodies hyper chatoyantes. Et voilà, ça nous touche.
Merci beaucoup, Arthur.
Faut que je raccroche maintenant?
Ouais.
Ok. Salut, alors bonne journée.
Salut.
Ciao.
Attends, il faut qu'on sorte ça. C'est encore un peu le bordel.
Un studio de répète à Pantin.
T'as une petite vaisselle ?
Faut vous filer un coup de main ou...
Non,
salut.
Ils sont cinq dans le groupe. Feu Chatterton, c'est Arthur Teboul, au chant et au texte, Sébastien Wolf, à la guitare et au clavier, Raphaël de Pressigny, à la batterie, Clément Doumic, à la guitare et au clavier aussi, et Antoine Wilson, à la basse. Vous allez entendre les trois premiers. Et comme vous avez déjà tout oublié, je fais l'appel.
Raphaël.
Arthur.
Sébastien.
Leur dernier album est sorti en 2018. Et le prochain est publié dans 6 jours. Entre-temps, on ne parle plus tout à fait pareil. On dit distanciel, présentiel, monde d'après. Eux ont intitulé l'une de leurs nouvelles chansons « Monde nouveau ». Et ils ajoutent « On en rêvait tous, mais que savons-nous faire de nos mains ?» Alors cette chanson « Monde nouveau », elle est née où ?
Elle est née...
Sébastien.
Elle est née entre Genolac et Villefort, si, dans les Cévennes. Non mais c'est, franchement c'est une région magnifique, donc okay. j'adore en parler. En fait c'était à l'été 2019, on avait envie de parler de la nature, et on s'est même installé dehors pour faire ce morceau. On se sentait au milieu de ça, on se disait bah, en fait c'est ça qu'on a envie d'avoir. Et peut-être c'est venu naturellement, il y a une forme de gaieté dans ce morceau quand même, de voir une forme de monde nouveau qui est déjà là, qui en fait peut être dans les Cévennes, qui est la nature quoi, quelque chose d'assez simple.
C'était déjà la canicule, on parlait beaucoup du réchauffement climatique. Et donc on était au milieu de ce qui reste en France de plus naturel, un des endroits où les astronomes peuvent encore voir les étoiles. Et donc je pense qu'il est plus surprenant la période qu'on vit, c'est qu'on attendait tous, toute la population sentait qu'il allait arriver quelque chose, que le système courait plus ou moins à sa perte, qu'il y avait un grand enraillement de la machine capitaliste ultra productive. Et... Bon, je dis ça, on est dedans aussi, hein, je veux dire, mais... On sentait ça, et comme on est angoissé et inquiet, eh bien, quand il y a un petit rayon de soleil dans la forêt, on fantasme.
Un vent, un grand vent nouveau, souffle sur le pays, très chaudement. Dans un bain de foule des veaux, à moitié épaillis, on se mouillait mollement. La glace fondait dans les spritz, c'était à n'y comprendre rien. Tout le monde se plaignait en ville du climat subsaharien. On n'avait pas le moral, mais l'on répondait bien à tous les mots, les traits d'esprit du serveur central.
Monde nouveau, l'un des titres du nouvel album de Feu Chatterton. Un disque qu'ils ont co-conçu avec le musicien et DJ Arnaud Robotini. Et c'est grâce à lui, Robotini Arnaud, que la chanson figure sur l'album.
Ce morceau, Monde nouveau, il a une histoire particulière, c'est que c'est vrai que c'était pas un morceau au départ qu'on pensait enregistrer, vraiment.
Souvent les morceaux les plus légers finissent à la poubelle.
Ah bon, pourquoi ?
Mais avec le temps on soigne. Bah je sais pas, c'est, je pense que c'est un truc dans la vie, comment dire. On se sent beaucoup plus à l'aise dans le lyrisme, la grandiloquence. Parfois, on a l'impression qu'on est plus protégé derrière ce mur de mélancolie.
Il y a aussi une autre raison, c'est que les morceaux plus légers et les morceaux vraiment pop nécessitent un travail de production. Donc, on a fait avec Arnaud en studio un travail du son qui fait que tout d'un coup, ils ont une forme de dignité. Alors que quand on arrive et qu'on les joue comme ça en répétition en studio, on a l'impression d'être des adolescents de 14 ans en train de faire... c'est-à-dire qu'on n'arrivait pas à trouver la formule pour que ce soit classe. Et c'est au moment où on peut se pencher avec du bon matériel sur les bons micros de batterie, les bons synthétiseurs qu'on n'avait pas à l'époque, le bon son de voix, où tout d'un coup, on arrive à donner, alors que c'est des accords très simples et une mélodie assez simple, une dimension, une épaisseur, en fait,
ouais, à ce propos.
Quand le refrain arrive... Il y a un son de guitare qui fait un peu comme une rampe de lancement.
Tu veux qu'on l'écoute ?
Ouais.
à l'arrière des berlines.
Ouais, grave, grave.
À l'arrière des berlines, donc, hein, c'est le début de José Joséphine. Et dans Monde Nouveau de Feu Chatterton, il y a de la guitare slide aussi.
L'idée, c'était de ramener quelque chose de blues. Pendant le studio, on écoutait beaucoup de musique des années 60-70. Parce que Arnaud est un grand fan et il nous a fait découvrir plein de choses. Il y a, dans tout le disque, il y a du blues.
Il y a plein de sons strictement électro à un moment.
Vers, des bruits,
vers une... ouais. Au bruit, ouais. C'est assez dissonant.
Ouais. On les appelle, j'ai mis Pierre-Henri, donc c'est un hommage à...
Messe pour le temps présent.
Messe pour le temps présent, ouais. Enfin, on écoutait, Arnaud nous a dit « Ah, ça me fait penser à Messe pour le temps présent, venez, on l'écoute. »
Oui, venez, on l'écoute, un des mouvements de Messe pour le temps présent composé par Pierre-Henri en 1967.
Et Pierre-Henri, c'est un musicien qui, dans Messe pour le temps présent, a réussi à mélanger de la musique expérimentale, électroacoustique, concrète.
Et de la pop. Grâce à Michel Colombier aussi.
Voilà, ouais, exactement.
De Michel Colombier.
Donc c'était un tour de force qui inspire encore aujourd'hui beaucoup de gens de la musique concrète, mais aussi de la musique notamment électronique. Et du coup, il avait les synthétiseurs. Arnaud, il a amené à ICP, donc le studio à Bruxelles où on a enregistré le disque, des synthétiseurs qui permettent de faire ces bruits-là, ces sons-là.
Et j'ai plein d'anecdotes en studio parce que moi, qui suis le chanteur, j'ai toujours envie que ce soit clean.
Que quoi soit clean ?
Qu'on entende bien la voix, qu'il n'y ait pas... Et moi, je veux pas qu'il y ait de parasites. Et alors, en studio, il y a plein de parasites. Il y a trop de parasites. Donc, c'est une sorte de lutte comme ça pour choisir vraiment les bons parasites, les bonnes interférences. Et donc, il y a plein d'anecdotes comme ça, de blagues.
Il a une bonne phrase pour ça. On me dit, mais tu veux tous les enlever.
J'essaye d'être diplomatique.
On me dit, tu veux tous les enlever. Il dit, mais pas du tout. Je veux pas tous les enlever. Je veux juste qu'il y en ait le moins possible.
Que ça me dérange pas. Pour le début du morceau, vous murmurez presque.
Ça, c'est à cause du whisky.
C'est vrai.
C'est vrai, non, c'est pas à cause du whisky. C'est aussi à cause de la tonalité. Non, la prise, c'est une prise whisky. Mais ça, c'est...
Alors, attendez, il y a des prises whisky.
Whisky 3, ouais.
C'est whisky 1, je pense.
Ah ouais, d'accord.
Mais c'est un morceau qui est très... à cette tonalité, qui est très bas pour sa voix. Du coup, ça le force à murmurer, mais c'est ce qu'il y a de très beau aussi.
Et on peut écouter ?
Ouais.
Un grand vent nouveau souffle sur le pays. Très chaudement, dans un bain de foule dévot, à moitié épaillis, on se mouillait mollement.
Tu sens vraiment la gorge être dans le plus bas de son timbre, résonner. Il y a quelque chose de crooner que tu peux pas avoir si le morceau était plus aigu.
De crooner ou de pilier de comptoir.
Voilà.
Pilier de comptoir, vous êtes un peu dur.
Non, j'exagère.
Non, mais il y a ce côté un peu alcôve, quoi.
En fait, je crois que quand je dis pilier de comptoir, c'est pas tant pour parler d'ivresse, que d'imaginer cette intimité qu'on peut avoir au comptoir, plutôt. Quelqu'un qui parle, qui aurait un peu vécu. Plus que moi, hein.
La glace fondait dans les spritz, c'était à n'y comprendre rien. Tout le monde se plaignait en ville, le climat subsaharien, on n'avait pas le moral.
Mais comme aujourd'hui on a besoin d'espoir et de lumière, les gens le reçoivent purement comme quelque chose de feel good, de joyeux, qui va donner du baume au cœur et de l'espoir.
Amour.
Mais en réalité, on peut très bien imaginer que ce serait un de nos parents, un boomer comme disent les jeunes, qui nous dirait « Regarde, on a essayé de faire la révolution et on n'a pas réussi. » Quelqu'un qui s'adresse à un plus jeune en lui disant « On en rêvait tous, mais qu'est-ce qu'on a fait finalement ?»
Que savions-nous faire de nos mains ? Zéro, attraper le Bluetooth. Que savions-nous faire de nos mains ? Presque rien. Presque rien.
C'est pas hyper optimiste, quoi.
Mais c'est un peu vrai, quand même.
Oui.
Je me serais jamais permis de dire ça, et on n'aurait jamais voulu dire ça, si la musique était pas lumineuse. On joue toujours de ces contrastes. Enfin, parfois, on joue pas de contrastes. Quand on est triste, on aime bien être parfaitement triste. Mais quand c'est gay, on peut se permettre de jouer de ces contrastes. Jamais on aurait dit des choses comme ça sur une musique hyper...
Triste,
comme ça, solennelle, ouais, ça va pas. Cette chanson est à l'image de tout le disque. elle est teintée d'espoir. On croit en un meilleur demain, on croit en une meilleure attention aux autres et au monde. Et la fin du morceau, c'est justement ce mec désabusé qui, un peu au début en se moquant, joue la joie, et ben se fait surprendre. Et il se laisse prendre en fait. Et quand il dit un mot de nouveau, à la fin,
c'est
bien, il y croit.
Degré.
Il y croit. Se
prendre dans les bras, ça t'appellerait
pas. Vraiment, quand on joue, il y a quelque chose qui se passe quand ça arrive à la fin où vraiment on est pris au trip, on exulte, on est une sorte de... On est comme des enfants dans une cour de récré, où on crie tous, on est pris par...
Par l'enthousiasme.
Par l'enthousiasme.
Je me permets une suggestion pour votre agenda. À la date du vendredi 12 mars, vous pourriez écrire ceci, se jeter sur le nouvel album de Feu Chatterton, Nota Bene. Le disque s'intitule Palais d'Argile. Le 12 mars est donc le jour où sera publié ce disque. Et la veille, jeudi 11 mars, Feu Chatterton sera en concert sur France Inter entre 20h et 22h dans le cadre d'une triple affiche qui compte aussi Raphaël et Arnaud Rebottini. Merci à Coy Nguyen qui réalise la chronique Tube & Co tous les vendredis dans la matinale de France Inter et qui réalise Pop & Co chaque semaine. Merci à Ilinka Negulesco, responsable des trouvailles sonores du casting et de la doc pour Pop et Tube & Co. JB Audibert soigne la programmation musicale et c'est Tristan Gratalon qui était aux manettes ce matin. La semaine prochaine, Pop & Co et Pop & Massive Attack et nous entrerons dans le labo de Mathieu Bogarts. On sera en Angleterre dans les deux cas. À samedi.